Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. À nouveau ensemble ce soir pour la suite du roman de Alice Fernet, Grâce et dénuement. Il lisait, assis sur le trottoir. Quand il faisait mauvais, elle les enveloppait dans sa couverture. Jamais encore, elle n'était entrée dans l'une des caravanes. Elle buvait moins le café le mercredi matin parce qu'il n'y avait pas de toilette. Quand elle arrivait, les enfants accouraient. Anita, Sandro et Carla, Michael, Anna, Priscilla et la grosse Mélanie. Mélanie avait 5 ans, déjà de la poitrine et du ventre. C'était une petite obèse, toujours fagotée dans des robes de poupée de foire. Elle était à l'affût du moindre détail. « Tes cheveux !» s'exclama-t-elle, quand Esther les coupa. « J'avais envie de changer, » dit Esther. Il la regardait sans dire un mot. Esther étendit la couverture, s'assit et se mit à leur parler. « Il y a une femme écrivain que j'aime beaucoup, qui avait cette coiffure. Elle s'appelait Colette. « Vous vous en souviendrez ? » demanda-t-elle. Ils opinèrent de la tête. Mélanie souffla. « Tu es jolie, mais je t'aimais mieux avant. » On lit, demanda Carla, qui se moquait bien de cette histoire de coiffure et de Colette. On lit, approuva Esther. Elle commença un conte. Il y avait une fois une femme qui aurait bien voulu avoir un tout petit enfant, mais elle ne savait pas du tout comment se le procurer.
Comme maman, chuchota Mélanie, qui sentait qu'elle livrait là un secret. « Chut !» dit Carla.
Elle alla donc trouver une vieille sorcière. Lut Esther, sans s'interrompre. Elle sentait la petite épaule de Michael contre son flanc. Il se serrait contre elle, comme s'il avait froid ou peur. Les matinées devenaient glaciales. La prochaine fois, il s'installerait dans la voiture. Le mercredi suivant, il pleuvait. Ils restèrent dans la Renault. Esther lisait en tenant le livre en l'air afin que tous voient les images. « Ouh, ouh, le loup !» criait Esther. « Allez, faites le loup !» Mais ne sortait d'eux qu'un léger murmure. « Plus fort que ça ?» dit Esther. Les enfants recommencèrent un peu plus fort. « C'est mieux !» dit Esther. Et elle reprit. J'ai envie de faire caca, dit Anita. Va, dit Esther, je t'attends pour la suite. Cette histoire vous plaît ? Demanda-t-elle aux autres qui restaient silencieux sur la banquette. Savez-vous qu'en France, il n'y a plus de loups ? Continua Esther. Eh oui, fit-elle, on a raconté tellement d'histoires sur les loups qui mangent les petits enfants que tous les loups ont été tués, il n'en reste plus un. Les enfants la regardaient sans rien dire. Ce qu'elle disait ou demandait les étonnait, et parfois ils étaient gênés. Anita sauta dans la voiture, une bouffée d'air glacé entra avec elle. Une odeur incroyable entra aussi, et Esther la sentit aussitôt. « Tu pues !» disait Sandro à sa sœur. « Casse-toi, tu pues trop !» disait-il, et il la poussait de ses deux mains vers la portière. Esther se mit en colère. « Arrête, Sandro, » dit-elle. « Elle s'est pas essuyée, » dit le garçon en guise d'excuse. Esther sortit un mouchoir de son sac et le tendit à Anita. Anita était paralysée devant son frère. « Ne t'inquiète pas, » lui dit Esther, « ce n'est pas grave du tout, » répéta-t-elle. Mais elle était bouleversée. Et elle savait que c'était idiot. Elle le lut, une autre histoire de loup. Les enfants s'étaient calmés. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Marie-Olga. Elle était devenue un plaisir de leur vie. Elle n'aurait pu disparaître sans leur faire de mal. Les enfants l'attendaient. Les parents lui parlaient. Elle ne posait jamais de questions, elle écoutait. Quel âge avait Anita qui n'allait pas à l'école? Elle aurait bien pourtant voulu le savoir. Mais elle ne l'avait pas demandé à la mère, ni même à Angéline qui, plus que les autres, venait lui parler. « Quel âge t'as ?» lui dit Angéline en guise de préambule. « 40 » dit Esther. Elle se mit à parler comme la vieille, sans détour ni ornement. Un autre jour, « Il est bien ton mari ?» disait Angéline. Le rire d'Esther avait égayé la vieille. Son âge s'était écrit d'une autre manière sur ses dents, celle qu'elle n'avait plus, ou celle qui était si gâtée qu'on eût dit des trous d'encre dans sa bouche. Elle était devenue affreuse. « Un bon mari, c'est utile et c'est rare, » dit Angéline, en se remettant à rire à cette idée. Esther était trop troublée par les dents. Elle n'en avait encore jamais vu à ce point de destruction. Trop troublée pour faire autre chose qu'un signe. Elle avait froid, le vent était glacial. La vieille semblait ne rien sentir, posée par terre comme une bonbonne. Ses cheveux droits en l'air, hérissés par mèches sur sa tête, semblaient les grands bois d'un cerf. « T'as froid ? Rentre chez toi, » dit-elle à Esther. « Tu reviendras. » De tout l'automne, Esther ne manqua pas un mercredi. Elle arrivait à 11 heures. Elle lisait les histoires aux enfants et elle écoutait les parents. La grand-mère était sa favorite. Dès que les enfants quittaient Esther, la vieille s'en approchait. Mais cela, lut Esther, les enfants ne pouvaient l'entendre ni le comprendre, et c'était bien ainsi, car les enfants ne doivent pas tout savoir. « Ha ha !» fit Sandro. « J'aime pas cette histoire, » dit Michael. « Elle est plus sérieuse que les autres, » dit Esther. « Vous pouvez filer maintenant. » Angéline était déjà là. « Quel âge t'as ?» dit la vieille. Elle l'avait déjà demandé, mais Esther ne dit rien. « 40 !» dit Esther. « T'es jeune ?» dit Angéline. « Tu fais pas 40, tu fais jeune. » Angéline sembla penser à quelque chose, se mobiliser plus que d'ordinaire. « T'es belle femme, » dit la vieille avec un air amusé, « profite. Un jour, c'est pour toutes les femmes, elles sont plus jolies du tout, même celles qui l'ont été. »« C'est pas si dur, » hocha la vieille. « À 40 ans, chez nous, on est déjà détruit. Moi, tiens, j'ai que 57 ans, ce serait pas si vieux chez vous. » Elle le disait sans regret, sans rêve, simplement sachant comme le monde était fait. « Le temps, dit-elle, c'est qu'un salopard qui nous dépouille de tout. Quand il a passé, on a perdu ce qu'on aime, le corps qu'on a et sa force et la beauté, mais qui n'est qu'une fiente d'oisillon à côté de la santé. Et on n'a pas à lutter, on n'a qu'à s'habituer. » Esther écoutait. « Oh, fit Angéline, notre corps à nous, il est comme notre misère. » Et elle retroussa ses manches sur des avant-bras pleins de cicatrices. Elle s'était assise près du feu qui brûlait plus de déchets que de bois. La vieille avait presque les pieds dedans. Et en somme, pensait Esther, elle était ce feu, ce petit brasier mal nourri, gavé de détritus et qui brûlait encore on ne savait par quel miracle. Esther restait en retrait. La fumée la faisait pleurer. Ce n'était pas l'odeur des feux qu'elle connaissait. « Approche-toi, » disait la vieille, « ça te brûlera pas. » Esther secouait la tête. « Viens, » insista Angélique, « ça craint rien. »« Je suis très bien comme ça, » dit Esther. « T'es sûre ?» demanda la vieille. « Certaine, » dit Esther. La vieille se remit à parler. Esther écoutait aussi attentivement que Nadia. Il y a un âge pour renoncer à chaque chose. Les femmes sont entraînées à cela. Angéline le disait de sa manière à la fois fière et fatiguée. Le plus difficile pour Angéline, ça n'avait pas été d'être moins jolie, moins alerte ou même veuve. Cela avait été de se dire « Jamais plus, je ne porterai un enfant. » Cette idée qu'elle n'était plus bonne à s'emplir du joyau de chair tendre lui avait battu la poitrine. Elle avait refusé, continué de rêver le soir contre son homme épuisé. Elle ne s'y ferait jamais, sinon à la fin, quand le sang ne coulerait plus et qu'elle se saurait sèche et vaine. Comme si son ventre, à demeurer vide, avait fini par comprendre, par cesser de se préparer pour rien, par lui faire signe qu'il savait autant qu'elle et qu'il pactisait désormais avec la mort et le néant. On fait sa route, on passe par tous les âges et on n'est pas immortel, disait Angéline. Elle souriait de sa bouche édentée. Et c'était affreux à voir. On pensait à la morte qu'elle ferait. La plupart du temps, les hommes restaient à discuter près de leur camion. Les cinq ensemble avaient l'air de se préparer à un complot. Personne ne savait de quoi ils parlaient. Les femmes ne s'en mêlaient pas. Quand ils venaient vers elle, c'était pour demander quelque chose. « Qu'est-ce qu'elle fout, la gadjo ?» disait-il devant Esther. Angélique rétorquait « Retournez à vos affaires et laissez-nous avec les nôtres !» Elle seule pouvait parler ainsi. Les femmes filaient doux. Esther les entendait. « Qu'est-ce que j'ai à dire de toute façon ?» demandait-elle à la fin des conversations.
Les guitares joueront demain, gitans. Les fameux danseront demain, gitans. Nous serons aux Sainte-Marie. Demain, gitans, tu embrasseras la maman. Et le front brûlant, tu baisseras la tête sous la croix des Sainte-Marie.
On l'appelle cœur de pierre. Je ne cherche pas à plaire. Je n'ai qu'un ami, qu'un frère. Hermano, lui qui ne jure que par moi, il aura mal quand il saura que je l'ai trahi. Hermano,
demain gitans, les guitares joueront demain gitans, les fameux danseront demain gitans, nous serons aux Sainte-Marie. Demain, au pied de la Vierge noire, tu feras le serment de tuer celui qui t'a déshonoré au Sainte-Marie.
Un homme fier, en vrai gitan, tu laves l'affront dans le sang. Demain, tu te vengeras, Herman. Foué au poing, couvert de sang, lequel de nous, frère gitan, dansera sur le corps de l'autre, Hermano.
Demain, gitans, les guitares sauteront. Demain, gitans, les fameux pleureront. Demain, le fouet claquera aux Sainte-Marie. Demain, gitans, les guitares.
tards se tairont demain, gitans, les femmes pleureront demain, le fouet claquera au Sainte-Marie.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Grâce et dénuement de Alice Fernet, la suite. Les hommes étaient détruits bien plus que les femmes. Sans doute parce qu'elles portaient les enfants et qu'elles étaient occupées à les aimer, les nourrir, les laver et les battre, ce qui suffisait à faire une vie. Ils étaient défaits parce qu'ils n'étaient obligés à rien. Ils n'étaient jamais tendus vers quelque chose, personne n'attendait rien d'eux. Ils traînaient, sauvegardant les apparences qui valaient autant pour eux que pour leurs femmes, leur fierté. Ils n'aidaient pas à ce qui reste aussi longtemps que l'on ne meurt pas, l'intendance de la vie. Ils étaient entrés dans le grand bavardage masculin, cette manière égoïste de se tenir sur la terre, de vivre dans les jupes des femmes, suspendues à toutes leurs lèvres, réclamant le nid, l'amour et la béquée, dans ce même élan obstiné qui le soir les portait à ce martèlement, la forme harcelante, haletante et suante que prenait leur désir. Et puis tout cela reçut repartant du côté des mâles, à palabrer. Alors, à côté des camions adossés contre une bâche, ils se plaignaient des femmes qui aboyaient, se refusaient, espéraient d'eux ce qu'ils ne pouvaient pas leur donner, la sobriété et la tendresse. « C'est de vivre comme ça, » disaient-ils en guise d'excuse, tout gênés lorsqu'ils avaient frappé trop fort un enfant ou à demi violé leur épouse. Un peu plus loin, du côté des caravanes, les femmes étaient aussi entre elles, groupées autour du feu comme autour de leurs secrets, qui n'étaient pas tant ce qu'elles savaient ou fabriquaient et qu'elles auraient voulu taire, mais ce qu'elles ressentaient et qu'elles ne pouvaient pas dire. Parce qu'on a beau vouloir croire le contraire, un homme, un mari, ça ne comprend pas tout. « Ça comprend rien », disait Angéline, qui pensait à ces nuits de désir muet que l'époux n'avait pas soupçonné, lui qui avait pu dormir à côté d'elle sans la toucher. Oh mais oui, il avait refusé de voir cette nature flamboyante qui avait fait 5 fils sans se coucher. Elle le répétait, les hommes et les femmes, c'est rien de commun et ça tient toujours à cause des femmes. Parce qu'elles en finissent assez vite de s'aveugler et de vouloir. Elle voit, après la chair, l'amour et les caresses, qu'il s'arrête jamais de prendre et qu'il n'y a rien d'autre à faire que de donner. Et ce qu'elle-même avait donné, non, décidément, elle ne l'avait plus, pensait Angéline, son ventre, sa douceur de nid, son élan pour diriger la vie sur un bon chemin et la gaieté d'avoir à le faire. Toute cette grâce pour vivre s'était dilué dans une grande fatigue. L'épuisement était entré en elle imperceptiblement, un jour derrière l'autre, à se dire qu'elle se sentirait mieux le lendemain, un mois glacé après un autre, une année mauvaise suivant une qui n'avait pas été facile. On passe son temps à attendre au lieu d'être. L'épuisement avait d'abord emporté la fraîcheur de son visage, sans que personne n'y vît rien, car elle continuait de sourire, et elle était encore jolie. Puis la force incroyable de son corps, la vitalité inaltérable qui le portait vers une tâche, cela s'était perdu ensuite. Son visage alors était devenu ridé et gris, lui qui avait été rond et fruité. Et ses yeux étaient entrés dans 2 petites cavernes bleues dont il ne sortirait plus jamais. Et elle avait grossi à force de moins remuer. Pour finir, il n'était rien resté de ce qui avait fait la femme et la mère. quand l'immense appétit de plaisir et d'enfant, de vin, de fête, de bon sommeil et de vie s'était usé contre le mari endormi, affalé, mort enfin, elle était restée seule avec une étrangère, elle-même veuve et vieillie. Elle était lasse maintenant. Et lui, ce mari qui l'avait prise et gardée, tout de même n'en était pas venu à bout. Il était mort avant elle. Elle n'en avait pas choisi d'autre. Non qu'elle n'eût pas une nouvelle envie d'amour, mais c'était une envie simple et minuscule. Elle aurait voulu cette fois ne donner que sa peau. Or, sa peau ne pouvait suffire. Ça ne suffisait jamais, d'ailleurs. Elle était fripée depuis longtemps. Que la vie est triste, se disait quelquefois Angéline. On ne fait que décliner après avoir travaillé. Et nous, les gitanes, on n'a pas le temps d'apprendre quelque chose, un métier, le monde, comment il est tourné, que déjà on se trouve grosse, accaparée par les enfants et le mari. Alors les jours noirs, Misia disait à Milena, « Les hommes, c'est rien. Même la vieille, elle le croit. » Et Milena l'écoutait dire, silencieuse. Un peu niaise tout de même à ne jamais avoir d'opinion, croyant peut-être qu'il n'y a rien à penser, qu'il suffit de laver par terre et de servir le café sans le renverser. Elle regardait le jus noir emplir la tasse. Les hommes, c'est rien, répétait Misia. C'est bien agité autour d'un petit morceau de chair qui durcit, mais c'est pas tout. Après, ils sont là, eux. Elle montrait les enfants. Qui s'en occupe, hein? Milena ne répondait rien. Et Misia se mettait à pleurer. Elle était épuisée et elle avait peur d'être encore enceinte. Elle sanglotait. Comme si elle avait su que rien ne changerait, qu'il reviendrait toujours aux femmes de s'inquiéter des petits, de s'user et de se ronger pour les autres. « Tu es fatiguée », lui disait Milena. Et c'était la seule chose juste qu'elle savait dire. Elle prenait dans sa main le poignet de sa belle-sœur entre le pouce et l'index et le massait doucement, juste à l'endroit où le tendon affleure et semble mêlé aux veines, là où les médecins prennent le pouls. Misia se calmait. Milena caressait la peau blanche et verte qui lui semblait palpiter. Elle tenait entre ses doigts le rythme de sa belle-sœur et lentement l'apaisait. Il n'y a pas forcément besoin d'être intelligent. Misia le pensait en voyant le sourire de Milena. Cette simplicité pour se lever, tenir debout et se recoucher le soir, sans avoir réfléchi au sens que pouvait avoir se lever, se tenir debout et se coucher. Lulu, là-bas près des camions, discutait avec ses frères en tourniquant un bout de mégot entre ses doigts. Misia détourna la tête pour ne pas le voir et s'agacer à nouveau. Les hommes parlaient à leurs femmes comme des brutes. Ce matin-là, Lulu lavait son camion. « Passe le torchon !» disait-il à Misia. À sa mère, il disait merci, mais pas à sa femme. « Ni merci, ni s'il te plaît. Le savon !» réclamait Lulu en s'énervant. « Et l'eau propre, elle est où ?» Cette fois, il criait. Misia avait filé aussi vite qu'une souris, et non pas pour être tranquille, mais pour lui chercher de l'eau. Esther n'avait jamais rien vu de pareil. Elle s'en allait. Elle n'avait pas envie de s'avouer que les enfants étaient parfois maltraités et qu'ils avaient peur de leur père. Et comment penser qu'un homme peut avoir le droit de battre sa femme? « Qu'est-ce que j'ai à dire, moi ?» répétaient inlassablement les femmes. Et rien ne changeait. Les frères savaient que Simon frappait sa femme, les belles-sœurs et la vieille le savaient aussi. Et Elena, qui n'en parlait jamais, les enfants l'entendaient pleurer après que le silence fût tombé sur les cris, la poursuite et les coups. Quand leur manège commençait, les soirs où les camions n'avaient pas roulé de la journée, quand le Simon montrait sa folie, Anna et Priscilla se mettaient à trembler. Elles allaient jouer avec Anita et Sandro. Les quatre ensemble attendaient le drame. Parfois, Priscilla pleurait dans les bras de sa sœur tout le temps que durait cette mise à mort inéluctable. Car Elena était d'abord vigoureuse, elle courait et rendait les insultes. Et lorsque le mari l'avait rattrapée, il la tenait par les cheveux et les hurlements devenaient plus aigus. À la fin, c'était une supplique, une abdication pleine de détresse. Simon frappait de toutes ses forces avec ses mains larges et dures comme des battoirs. Il vidait une rage infinie ou incompréhensible, son chagrin et sa folie dans chacun de ses coups sur une chair qu'il avait autrefois caressée. Mais quand il n'en pouvait plus de lever le bras, quand quelque chose en lui se brisait contre l'absence de résistance, il la lançait par terre comme un chien mort. « Elle partira bientôt », pensait Angéline. Et elle commençait à juger, avec une bonne raison de le croire, que ce serait préférable pour tout le monde, même pour les enfants. « Le fils sera brisé », pensait-elle, seule à se chauffer au bord du feu. Elle savait qu'il était déjà cassé. « Simon, mon fou !» soufflait-elle entre ses lèvres. Parfois, elle l'observait, se demandant ce qui avait dérapé sur le trajet de l'enfance à l'homme. Mais rien n'aurait pu la faire entrer dans la caravane pour arrêter son fils. Les deux ombres qui dansaient derrière les rideaux de la petite fenêtre l'hypnotisaient. Nul n'aurait pu dire si elle entendait les cris poignants d'Elena. Elle ne paraissait ni émue, ni bouleversée. Il ressortait de là qu'Elena ne sera jamais sa fille, mais une étrangère qu'elle pouvait entendre supplier sans faire un geste. Et quelquefois, Angelo surprenait sa mère qui soulevait son rideau pour regarder. Le vieux visage avait une expression d'intense concentration, de fascination, presque d'extase, au spectacle de la tragédie qui se donnait dans ce théâtre d'ombre. Voilà pour ce soir, donc la suite de Grâce et dénuement de Alice Fernet que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.